Oscar Huguenin, Nos vieilles gens, l'apprenti tailleur. Chapitre 10. Le lendemain matin, au petit jour, on entendait près de notre porte quelqu'un frapper le mur du bout de ses souliers ferrés pour en faire tomber la neige. C'était Félix Henry, le vieux cossandier de Marmoux, vêtu de son antique habit carré couleur noisette et muni de son sac professionnel de serge verte. Je revois quand je veux sa grande taille courbée par le poids des ans, son œil gris, vif et malin, sa figure joviale, où des rides innombrables traçaient leurs sillons dans tous les sens, la petite queue de sa perruque qui lui sautillait dans le dos quand il tirait son fil, ou quand il tournait brusquement la tête pour donner la réplique à quelqu'un, car il avait encore la langue prompte et les mouvements singulièrement aisés pour un octogénaire. Notez qu'habitant le quartier de Marmoux, de l'autre côté de la vallée, il avait toute celle-ci à traverser par un chemin à peine battu pour atteindre le village. Aussi devait-il ce matin-là être parti avant l'aube. Son arrivée ne prit cependant pas ma mère au dépourvu. Elle était sous les armes depuis le chant du coq et n'avait laissé personne dormir la grasse matinée. Le déjeuner arriva tout fumant sur la table. Il y avait ce matin-là un extra que je goûtais fort. Un plat de pommes de terre dont la culture commençait à se répandre, mais que nombre de paysans, enracinés dans leurs préjugés, persistaient à considérer comme un produit malfaisant du règne végétal. L'oncle Philibert, qui avait plus de bon sens que cela, en avait rapporté 2 ans auparavant d'une foire du Val-de-Rue, où cette culture était déjà en honneur avant que le célèbre parmentier en eût doté l'affront. Il en plantait depuis lors, sans abandonner pour cela les grandes fèves dites de Bourgogne, et de temps à autre, nous en envoyait un panier par ce grand innocent des mi-comtesses. Tout le monde fit honneur au savoureux tubercule de l'oncle Philibert. Le cossandier y mordait à même, sans l'épeler, n'en voulant pas perdre la moindre parcelle. Si l'ancien petit Mathilde nous voyait, disait-il, la bouche pleine, en clignant de l'œil avec malice. En voilà un qui n'est pas pour les nouveautés. Le Seigneur nous préserve de la poison, si ce n'est pas tenter la providence. Vous verrez, quand ils auront une belle fois la peste, la gravelle ou la vérole noire, ou Dieu sait quoi. Ce sera bien leur dame. Ils l'auront voulu, ils l'auront. Et nous rions de bon cœur avec le causandier des sinistres prédictions de l'ancien petit Mathilde, sans qu'elles nous fissent perdre une parcelle de notre appétit. Pardi, reprenait Félix-Henri, je vous demande un peu si monsieur le gouverneur Milord Maréchal, lui qui en a planté à Colombier, et qui en est fou, à ce qu'il paraît, ne sait pas mieux ce qui en est que l'ancien petit Mathilde. Comme nous nous levions de table, Nestor Tissot, le filleul de mon père, fidèle au mot d'ordre qui lui avait été donné, s'annonça devant la maison, comme en avait fait le cossandier, en battant de la semelle contre le seuil. « Bien le bonjour, toute la compagnie !» fit-il en entrant. Et tout d'un trait, secouant la main à chacun, il répéta à la ronde, comme une leçon apprise par cœur, « Comment va? Bien et vous ?» Pour un environnier, Nestor n'était pas timide. Moi, j'avais moins d'aplomb que cela. Ce gros garçon réjoui, joufflu, les yeux bleus bien ouverts, les joues et le nez retroussés d'un beau cramoisi, était la bonne humeur en personne. Félix-Henri se mit sur le champ à le toiser en long et en large, ce qui n'empêchait pas mon Nestor de faire manœuvrer sa mâchoire. Ma mère lui avait mis une pomme de terre dans la main, et il mangeait avec recueillement ce mets nouveau pour lui. « Bigre de bigre !» faisait-il enthousiasmé. « C'est ça qui est bon ! Si on avait seulement des racines pareilles par les queudres ! Les raves, en comparaison, ouais, ce n'est que de la gnognotte. On ne pourrait rien avoir de la graine, des fois. » Quand on lui eut expliqué d'où elle venait et comment l'oncle Philibert les plantait par quartier, Nestor parut tout déçu. « Ah, voilà, voilà, ce n'est pas de la graine. Je me pensais qu'avec quelques pincées... Quel bigre! Si c'est comme ça, j'ai idée que ça reviendrait trop cher. » « Qu'est-ce qui reviendrait trop cher, galopin ?» C'était l'oncle Philibert qui, arrivant pour voir quand ma mère serait disposée à partir pour le Locle, interpellait ainsi Nestor Tissot. De planter de ses fameuses racines, et du doigt de Nestor montrait le plat où il restait deux ou trois pommes de terre. Tonichtre, elles sont rudement bonnes. Est-ce que ton père aurait goût de s'y mettre?
Lui, je ne sais pas, il n'en a jamais parlé.
Mais moi, si je pouvais, dans un coin du Courtil,
c'est ma mère qui serait contente, bigre de bigre.
L'oncle Philibert paraissait bien disposé pour Nestor Tissot, mais à chacun des gros mots que le garçon lâchait innocemment, l'oncle faisait la grimace. Il n'aimait pas les jureurs. Écoute, fit-il en courbant sa grande taille pour se mettre au niveau de Nestor et lui pincer l'oreille. Tu n'as qu'à passer au coin. On t'en donnera une couple de douzaines, comme semant. Mais c'est à condition que tu te surveilles pour ne pas jurer à ton bout de champ comme un soudard. Entends-tu ?
Enchanté d'une aubaine aussi inespérée, mais stupéfait du reproche qui lui était adressé,
Nestor se mit à bredouiller des remerciements entremêlés de protestations. « Bien obligé, mille fois, monsieur Maté. C'est ma mère qui va...
Mais est-ce que je jure ?»
Il disait cela si innocemment que tout le monde se mit à rire.
« Par exemple, s'exclama l'oncle Philibert en le regardant du haut en bas,
qu'est-ce que tu croyais que c'était, tes bigres de bigres et tes tonichtres ? Ce n'est pas dans ton catéchisme que tu as trouvé ces beaux mots, et ce n'est ni monsieur le régent, ni monsieur le ministre qui te les ont appris, hein ?»
Nestor Tissot baissa la tête d'un air contrit et se gratta la nuque.
« Ça, c'est un fait, »
convint-il franchement.
« Mais je les disais sans penser à mal, par manière de parler. Vous pouvez compter que je vais surveiller ma langue, monsieur Maté, puisque c'est un effet de votre bonté de...
Bon, bon, à propos, Henriette, quand faut-il atteler ?
Quand vous voudrez, oncle. Dans un quart d'heure, je suis prête. »
L'oncle sortit, emmenant Nestor pour lui remettre les pommes de terre promises, pendant que ma mère donnait ses instructions au causandier, en exhibant l'antique costume qu'il s'agissait de rajeunir et d'adapter à la taille du catéchumène.
Mais je m'attarde à tous ces menus détails qui se présentent en foule dans ma vieille cervelle, et j'en oublie mon intention première, qui était surtout de raconter les faits et gestes de mon protégé, l'apprenti tailleur, et ce qu'il advint de lui par la suite. Le vieux causandier avait entendu parler la veille de la fuite clandestine de son concurrent, et même, grâce aux amplifications de la rumeur publique, qui avait agrémenté le fait d'une série d'incidents tragiques, il en savait infiniment plus que nous, qui avions joué un rôle dans l'événement. C'est ainsi qu'avant de décamper, ce mécréant de Blum aurait assommé aux trois quarts sa femme, qui était, depuis lors, assurait-on, entre la vie et la mort. Après quoi il aurait tenté de mettre le feu à la maison de son propriétaire, lequel avait pu, par un hasard fortuné, étouffer l'incendie dans son germe. Quant à l'apprenti, disparu non moins mystérieusement que son patron, il était hors de doute que le féroce tailleur l'avait assassiné et s'était débarrassé de son cadavre d'une façon ou d'une autre. Sur ce point seul, les opinions différaient, les uns donnant pour tombeau au malheureux André l'une ou l'autre des citernes de Miéville, les autres tenant pour son incinération dans le poêle de Blum, et appuyant leur dire du fait qu'une odeur nauséabonde avait positivement été remarquée dans le quartier, en même temps qu'une fumée épaisse sortait de la cheminée du tailleur, dans la matinée du samedi. Mon père et moi, nous laissions le causandier égrener son chapelet de nouvelles sans l'interrompre, mais en échangeant des regards amusés. D'un autre côté, continua Félix-André en hochant la tête, il y en a qui disent que la Marianne chez Isaïe Vuille a vu le petit père Noux pas plus tard qu'hier, qu'il est venu chercher le lait pour Charles-André Gentil, du Cré des Chézeaux. Mais, montez, entre nous soit dit, la Marianne n'a jamais eu la tête bien solide. La preuve, c'est qu'elle prétend aussi que samedi soir, l'apprenti était déjà venu, mais qu'il avait une toute autre mine, et qu'il avait voulu se faire passer pour quelqu'un du Cré, elle ne se rappelle plus qui. À ce dernier trait, je ne pus m'empêcher de rire de bon cœur, ce qui fit brusquement relever la tête au causandier.
Ah, ça, fit-il d'un ton sévère en regardant alternativement mon père et moi. « Je voudrais bien savoir, Alfred, ce que ton garçon trouve de drôle dans tout ça. Il me semble, à moi, que ce n'est rien du tout risible. »
Mon père se hâta de sortir sa tabatière de dessous son établi et la présenta ouverte au vieux tailleur pour l'apaiser, en disant d'un ton conciliant « On ne peut pas mieux dire, monsieur Peter. Non, il n'y a pas de quoi rire dans cette affaire de Bloom. Bien le contraire. Seulement, voyez-vous, monsieur Peter, ce qui a paru drôle à Charles Auguste, c'est que les gens aient pareillement fait les loups gros. Il vous faut l'excuser. Il n'a pas eu mauvaise intention, et comme il est au courant mieux que quiconque, comme on va vous dire. »
Le vieillard fit un geste magnanime après avoir savouré sa prise et demanda, moitié curieux, moitié vexé qu'on fût mieux renseigné que lui,
« Ah, il est au courant ? Comment ça ? Voyons voir. » Je laissai naturellement mon père rétablir les faits et raconter la part que j'avais prise dans l'incident. Je sentais qu'il fallait user de précaution, car le vieux tailleur, qui était susceptible, s'il venait à apprendre qu'on avait failli employer son concurrent pour la besogne la plus importante, en lui réservant à lui, Félix Henry, que la plus infime. Mais mon père était un homme à se tirer d'affaire, et à ne parler, sans fausser la vérité, que de ce qui pouvait être dit sans danger. Voici ce qui en est, monsieur Peter. Notre Charles Auguste avait une commission à faire du côté de Miéville. C'est comme ça qu'il a vu Bloom forger sur son apprenti et le pousser dehors. Alors, notre garçon a eu l'idée de le mettre chez le vieux Soubise, qui est plein de rhumatisme et qui ne peut quasiment plus bouger de son fauteuil. Ça s'est tout de suite arrangé. Le petit Pernoud tient ce ménage que c'est un plaisir. J'y ai été faire un tour avec le greffier. Pour ce qui est de Bloom, c'est un fait qu'il a décampé samedi. Il était si tellement rempli de dettes qu'il s'attendait à tout moment voir arriver le sautier, bien sûr. Mais qu'il ait éreinté sa femme avant de déguerpir, ça, c'est une invention. En tout cas, elle n'en a pas dit mot à notre Henriette, qui a été hier soir, et qui n'a pas remarqué le moins du monde qu'elle ait été mal arrangée. Je sais bien, crut devoir ajouter mon père par scrupule de conscience, il se rappelait le soufflet dont j'avais entendu le bruit, je sais bien qu'il ne se gênait pas de lever la main sur sa femme, ce gueux. Mais il ne faut tout de même pas lui en mettre sur le dos plus qu'il n'en mérite. C'est déjà bien assez comme ça. Le Cossandier écoutait, l'air un peu humilié d'avoir été si crédule. Il secoua la tête quand mon père eut fini et grommela d'un ton vexé. « Ah, ces langues, les gens ne se plaisent pourtant qu'à vous emplir les oreilles de mensonges. » À titre de consolation, sans doute, mon père lui offrit une seconde prise tout en demandant « Des apprentis, vous n'en prenez pas, monsieur Peter. » « Ouais, des galopins, avec qui il faudrait se chamailler tout le long de l'année. Oh, pour ça, non. Et puis, un vieux garçon comme moi m'en coublé de la marmaille d'autrui. » C'est bien ce que nous avons dit, le greffier et moi, quand il s'est agi de placer le petit Pernoud. Ah, si on avait tout su, on ne l'aurait pas mis chez cet estafier de Bloom. Mais voilà, il fallait prendre un parti. Ce Bloom venait d'arriver, il cherchait justement un apprenti. Enfin, on est mal tombé, ça, c'est sûr et certain. Ayant ainsi dégagé sa responsabilité personnelle, mon père se remit à son travail, l'air préoccupé. « Pour le moment, reprit-il bientôt, il est bien où il est, le petit Pernoud. Il rend service au père Soubise, il a le vivre et le couvert, et il le gagne bien. Seulement, ce n'est pas un avenir, tenir un ménage, cuisiner. À moins qu'il ne prenne goût à chapuser comme Charles-Aimé Gentil. Peut-être alors...
« Papa, fis-je en touchant mon père du coude, est-ce que je peux dire quelque chose ?»
Mon père me regarda d'un air bienveillant.
« Voyons, as-tu peut-être une idée ?»«
André Pernoud s'est divinement bien chapusé. Il faut voir quelle tête de pipe il a fait rien qu'avec un vieux couteau et une racine d'épine. Et encore que c'est tout pique la figure à Bloom. On le reconnaît trop bien. »
Mon père avait posé son microscope et le Cossandier restait ses ciseaux en l'air pour écouter avec intérêt.
« Eh bien, Alfred, « mais d'avis que vous voilà desserré, » fit le vieillard qui se remit à découdre.
« Mi vous taillez du bout d'adret,
Qu'est-ce que t'as ? Mieux vaut bien couper du bois que mal couper des habits. »
On ne peut pas mieux dire, acquiesça mon père avec déférence, et d'un ton soulagé, il ajouta : Voilà ce qu'on peut appeler une fameuse chance.
Mais André a-t-il fait cette tête tout seul ? Es-tu bien sûr ?
Il y travaillait en surveillant son souper, et il nous a dit que personne ne lui avait appris.
Bonne affaire, murmura mon père, qui se remit à limer avec entrain la pièce qu'il ébauchait.